découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Bien, nous parlons aujourd'hui des hémorroïdes. Quelles sont les causes et remèdes? Vous savez, les hémorroïdes sont très fréquentes chez les personnes adultes. Elles se traduisent généralement par des douleurs, irritations, saignements au niveau de la région anale. On peut également ressentir le besoin d'aller souvent à la selle. Aussi gênant que fréquent, ce problème très intime est très souvent l'objet des tabous. On n'en parle pas. Alors, comment reconnaître, soigner et prévenir les hémorroïdes? Docteur Antoine Chimpi, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, est là pour vous servir ce matin. Alors, apprêtez déjà vos questions. Appelez déjà pour vous inscrire au 081 890 63 94 94. Docteur Antoine, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour, jeudi. Alors, quelle énergie, très bien.
Nous parlons des hémorroïdes, docteur. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est un sujet passionnant, parce que ça a toujours été passionnant, même avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Vous savez, c'est le spécialiste de la Bible, ils pourront lire dans Deutéronome. À l'époque, déjà, vous voyez, quand les gens se méconduisaient, ils pouvaient être punis par Dieu. Et parmi les punitions, il y avait les hémorroïdes. Il y a, dans Deutéronome, c'est dit marqué par exemple, l'Éternel te frappera des gales et d'hémorroïdes. Vous voyez, déjà à l'époque, il y avait déjà la passion autour de la maladie hémorroïdaire.
Okay.
Alors que les hémorroïdes, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose de simple. Tout le monde, de la naissance à d'un enfant qui vient de naître au vieillard, nous avons des hémorroïdes. Les hémorroïdes sont de petites veines, tout simplement, qui sont dans le petit bassin, qui font la jonction, pour faire simple, entre le sang qui quitte le cœur, qui va aller vers les pieds, vers les jambes, et puis le sang qui quitte les jambes, qui vont remonter. Il y a une zone d'échange qui s'est faite au niveau du petit bassin, et les plus petites veines, là, parmi ces veines, il y a de veines qu'on appelle hémorroïdes. Donc, première notion déjà, hémorroïdes, c'est quelque chose de normal que tout le monde a. Et en fait, quand les gens parlent d'hémorroïdes,
on pense tout de suite à la maladie.
Alors, en fait, c'est la maladie hémorroïdaire qui est donc des anomalies au niveau de ces petits tuyaux des circulations au niveau du petit bassin. Voilà.
Donc, alors, qu'est-ce qui cause cette maladie hémorroïdaire?
Voilà. Plusieurs causes. La principale des causes, c'est le trouble des transits. Les gens qui vont irrégulièrement à la selle, qui ont des selles un peu dures. L'image que j'ai habituellement tendance à expliquer à mes patients, je leur dis, vous dessinez un triangle. Un triangle, vous avez donc trois angles. Sur les angles, vous mettez des petites boules. Donc, vous avez trois boules, trois petites oranges ou trois clémentines. C'est ça, les hémorroïdes. C'est des petites boules disposées comme ça en triangle à l'entrée de l'anus. Et ces boules qui sont comme des oranges, imaginons que le sel qui passe, le caca, est dur. Quand ça va passer, ça va frotter la paroi des oranges. La paroi des hémorroïdes. Les oranges, si on les blesse, ça pleure du liquide. Les hémorroïdes, si on les blesse, ça va pleurer du sang, puisque c'est des tuyaux par où passe du sang. Donc la première cause des fragilisations de la paroi hémorroïdaire, c'est la constipation dans toutes ses formes. Donc première règle, régulariser le transit. On a des familles où on va trouver beaucoup de personnes qui vont avoir des fragilités hémorroïdaires, mais il n'a jamais été dit qu'il y avait un caractère génétique en fait pour faire la maladie hémorroïdaire. C'est probablement fréquent parce que tout le monde peut avoir des hémorroïdes, donc on peut avoir plusieurs cas dans une même famille. On a des traitements, quelques médicaments qui peuvent, notamment les traitements hormonaux, notamment chez la jeune femme, en activité hormonale, par exemple des périodes de règles, avec l'œstrogène, le progestérone, ils peuvent remarquer qu'ils sont un peu plus gênés au niveau anal, au niveau hémorroïdaire, parce qu'il y a un lien entre le taux hormonal et l'irritation ou non de la zone hémorroïdes.
Mais docteur, on dit souvent que les gens qui restent, par exemple, trop longtemps assis, les chauffeurs, les secrétaires ou des gens qui restent trop longtemps debout, peuvent facilement développer la maladie hémorroïdienne.
Effectivement, c'est des situations qu'on appelle des facteurs favorisants, c'est-à-dire celui qui va rester tout le temps assis avec un frottement mécanique au niveau de l'anus, avec cette station qui ralentit la circulation sanguine, ils vont être un peu plus sujets à fragiliser leur zone hémorroïdienne. C'est des facteurs favorisants. Ce n'est pas ça qui va causer la maladie. Sans doute qu'il y avait probablement une fragilité déjà, et cette situation vont majorer la fragilité. Oui, les gens assis, le secrétaire, ceux qui travaillent régulièrement assis, voire même régulièrement debout. En fait, ce qui est important, c'est de changer constamment des positions pour favoriser le retour veineux, la circulation sanguine.
Voilà. Vous avez parlé parmi les causes, les selles dures, la constipation.
Il y a certains médicaments. Il y a la situation donc hormonale, on dit les périodes des règles chez la femme. Ces périodes-là, on sait qu'avec un lien hormonal, on a quelques aliments qu'on parle comme aliments irritants, mais c'est en plus, c'est pas les causes. Une alimentation riche en épicés notamment, c'est pas les causes, mais c'est des facteurs vraiment favorisants et fragilisant cette zone. Et puis il y a tout ce qui peut être maladie mécanique au niveau du petit bassin, ce qui peut comprimer et gêner la circulation du sang au niveau du petit bassin. On va passer par des lésions simples jusqu'à des tumeurs de cancer qui, eux, vont en fait comprimer et favoriser la maladie hémorroïdienne. Mais ce n'est pas, vous avez compris, la cause est ailleurs.
Voilà, la cause est ailleurs. Il y a des facteurs favorisants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Certains pensent que le fait d'avoir régulièrement des relations sexuelles, ça conduit le sujet à développer la maladie hémorroïdaire.
Alors, c'est une mauvaise idée reçue, c'est une idée reçue fausse. C'est le contraire, en fait. Lorsqu'on a des relations sexuelles, ça veut dire qu'on a une érection qui est solide. L'érection demande un afflux de sang. Donc, ça augmente le sang au niveau du petit bassin. Donc, ça favorise les retours, la circulation dans cette zone. C'est bien le contraire. Ça favorise le retour, la circulation veineuse, y compris au niveau des veines hémorroïdaires. Donc, ça n'a pas de lien à les créer une baisse. C'est le contraire. Voilà.
C'est plutôt le contraire. Et on dit souvent que les femmes enceintes souffrent souvent de cette maladie, docteur. Comment expliquez-vous cela?
Voilà, ben ça passe par des effets mécaniques, tout simplement. Chez la femme enceinte, on peut avoir tendance à la constipation. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et la constipation va entraîner un ralentissement, un frottement des parois hémorroïdaires. Mais également, la grossesse en elle-même, le bébé qui est dans le ventre, a tendance à appuyer un peu au niveau du vaisseau du petit bassin. Imaginez que son pied...
C'est une sorte de compression, donc
il gêne les retours veineux. Donc il y a une accumulation de sang dans le petit bassin, et qui dit accumulation de sang dans le petit bassin va avoir une turgescence, un gonflement des veines au niveau hémorroïdaire. Oui, la situation des grossesses est un facteur favorisant de la maladie hémorroïdaire.
Et comment se manifeste cette maladie, docteur?
Alors vous avez donné, vous avez fait une description des symptômes tout à l'heure, c'est très bien. Ce que je vais dire aux auditeurs, la maladie hémorroïdaire en général est asymptomatique, c'est-à-dire il n'y a pas de symptômes, ou alors quand il commence à être fragilisé, le signe principal c'est avoir du sang dans les selles. Vous allez aux toilettes, lorsque vous vous essuyez, il y a des traces de sang clair, rouge au niveau du papier, mais qui peuvent aussi être des sang qui éclaboussent la cuvette, parce que ayez toujours l'image des petites oranges dont on a blessé la peau. Si vous comprimez une orange, ça peut faire éclabousser du liquide. Quand on va aux toilettes, le fait de pousser, vous comprimez les hémorroïdes, et si la paroi est un peu blessée, vous pouvez éclabousser du sang dans la cuvette. C'est du sang. Tous les restes qui suivent, si vous avez des douleurs en allant à la selle, si vous avez des démangeaisons, si vous avez des ténesmes, c'est que vous avez décrit des envies régulières à aller à la selle, faites attention, les hémorroïdes deviennent compliquées. C'est-à-dire, les hémorroïdes en elles-mêmes ne doivent pas faire mal. Donc, l'autre notion que je vais dire, quand on a mal, des douleurs au niveau de l'anus, il faut consulter. Ce n'est pas des hémorroïdes banales. Est-ce que vous avez une fissure? Est-ce que vous avez un abcès? Est-ce que vous avez une thrombose? Est-ce que vous avez autre chose? Quand vous avez mal, ce n'est pas la pathologie hémorroïdaire banale. Quand ça démange, quand ça gratte, c'est autre chose que les hémorroïdes. Parce qu'on a tendance à mettre tout dans le même panier, tout ce qui se passe dans ce quartier, comme j'ai dit, on pense que c'est des hémorroïdes. Mais dans ces quartiers, il n'y a pas que les hémorroïdes. Au niveau de l'anus, vous avez des orifices derrière, en fait, les fesses, à l'intérieur des cavités qui peuvent s'infecter. Donc, tout ce qu'on appelle hémorroïdes ne l'est pas forcément.
Bien. Nous allons accorder la parole à nos auditeurs, docteur, qui vous suivent attentivement, je suis sûr. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne, Omar Kigalo, il nous appelle des Kinshasa. Vous voulez également participer à l'émission, appelez au 081-890-63-94.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Bien, nous parlons aujourd'hui des maladies hémorroïdaires. Quelles sont les causes et remèdes? Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Aujourd'hui, nous recevons Dr Antoine Tchimpi, spécialiste des maladies de l'appareil digestif. Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour, je dis Kachama. Bonjour, Alain.
Bonjour, bonjour, monsieur Omar.
Bonjour, Omar. Quelle est votre question?
Merci, je dis, tout en vous souhaitant un bon retour à l'antenne, je m'en vais à ma première question. Est-ce que lorsqu'on mange un piment et qu'on va à la selle, on fait la selle, il y a des douleurs au niveau de la surface anale? Ça peut aussi être l'un des facteurs de l'hémorroïde qui m'arrive aussi de vivre ça. Même bien que c'est pas fréquent, mais il m'arrive.
Lorsque vous mangez les piments?
Certaines personnes, vous mangez le piment et que vous allez à la selle, en faisant la selle, vous sentez des douleurs pimentaires au niveau de la surface anale. Je voudrais savoir si c'est aussi l'un des symptômes des maladies hémorroïdaires. Deuxième question, certains antipatriciens, surtout ceux qui passent à la télévision, chaque nuit nous dérangent. Je suis même content que les médecins disent que l'hémorroïde, c'est pas la maladie, mais ils appellent ça même l'hémorroïde, ils passent à la télévision, aucune sanction. Ils disent que la mauvaise alimentation est aussi l'une des causes des maladies hémorroïdaires. Est-ce que les médecins peuvent confirmer ça? Troisième question, je fais un constat ici à Kinshasa. Tous ceux qui souffrent de cette maladie-là, entre guillemets, hémorroïde, lorsqu'ils vont à l'hôpital moderne ou la médecine moderne, c'est comme s'ils n'ont jamais été guéris. C'est comme si la guérison ne provient que des médicaments traditionnels. Souvent, on donne aux uns des gémeaux. Mais je n'ai jamais vu, moi, au niveau de la pharmacie, un médicament qu'on attribue à quelqu'un qui soit guéri. Est-ce là une faiblesse de la médecine moderne où il existe des médicaments que nous ne connaissons pas? Et dernière étape, une question. Au niveau de l'ordre de médecins, qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour éviter de l'aventurisme qu'on voit à la télévision? Il y a des tradis patriciens qui passent, qui traitent des maladies, qui parlent de ça. Avec l'émission d'aujourd'hui, nous sommes suffisamment éclairés. Mais qu'est-ce qu'il faut aller apporter pour chasser l'ignorance qui se déguise, n'est-ce pas, au niveau du peuple que nous sommes? Voilà mes quatre questions, je dis, je vous remercie.
Bien, merci Omar Kigalo. Docteur Antoine.
Oui, merci Omar, ça permet d'apporter les précisions. Les piments, en fait, dans la composition de piments, il y a une petite substance à base de soufre, comme dans certains liqueurs, certains alcools forts. Et ces substances, en fait, ont une affinité d'aller dans la région, au niveau de la région anale. Et en fait, au niveau de l'anus, vous avez l'orifice de l'anus. Et après l'orifice, vous avez ce qu'on appelle nous le canal anal, qui fait 2 cm à peu près de hauteur. Et après, vous avez les paquets hémorroïdaires internes. Cette paroi qu'on appelle canal anal est sensible. Et ces produits à base de soufre ont une affinité avec cette zone. Ils peuvent l'irriter. En fait, effectivement, on peut, lorsqu'on prend certains aliments épicés ou certains liqueurs, avoir une gêne, voire un picotement douloureux au niveau de l'anus. En fait, la douleur n'est pas sur la paroi hémorroïdaire. C'est vraiment les canaux anales. Les gens appellent ça hémorroïde. Et en fait, c'est les canaux anales. Ça soigne très bien avec des pommades anti-inflammatoires simples, locales. Voilà. Les tradis praticiens, ben, évidemment, ça, c'est un gros problème. Un problème énorme chez nous, avec toutes les onomatopées ou les noms que vous avez donnés, hein, hémorroïdes, c'est des hémorroïdes, effectivement. Mais je pense que ils ont pris la place. On faisait le débrief avant de rentrer, je lui disais. Donc, je pense que c'est l'absence de la médecine moderne qui fait que ce vide a été occupé par des tradipraticiens. Voilà.
Et c'est là est entré dans la tête des gens. On pense que la médecine moderne ne peut pas guérir les maladies hémorroïdaires.
Exactement. Et c'est quelque chose de faux. Il y a la proctologie, en fait, la science qui s'occupe proctocéanus. Moi, je suis proctologue qui s'occupe donc des maladies hémorroïdaires. Ça existe, ça les traite très facilement et il y a des traitements très accessibles à tout le monde pour pouvoir s'en occuper. Il faut bien expliquer la symptomatologie parce que derrière, il y a quand même des choses qui peuvent être gravissimes lorsqu'on continue à appeler hémorroïdes alors que quelqu'un va régulièrement à la selle, par exemple. Ça ne peut pas avoir lien avec les hémorroïdes et on peut cacher un cancer derrière. Et moi, je vois des gens. Je vois ceux qui ont bénéficié de certains de ces traitements tradis et qui viennent avec leurs complications. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas, évidemment, quand ils passent, ils ne parlent pas de ces effets-là. Oui. Je pense qu'il faut déjà être, sûr du diagnostic. Et ça, c'est la médecine moderne qui va vous le dire, parce qu'on va vous examiner très simplement en 5 minutes d'examen clinique. Il n'y a même pas besoin des radios, de scanners, tout. Un examen clinique, on vous dira c'est une maladie hémorroïdaire ou non, et on vous dit comment ça se soigne.
D'accord. Voilà. Jean, avant de répondre aux autres questions, on va accueillir Jean-Luc Moukoutou de Lumbashi. Bonjour, Jean. Quelle est votre question, Jean-Luc?
Oui, j'ai deux petites questions. Je commence par la première. Souvent, on dit que le fait de manioc favorise aussi les hémorroïdes. Est-ce vrai ou faux? Et si la deuxième question, c'est au niveau des signes. Comment est-ce qu'on peut différencier? Parce que les gens pensent qu'il y a une... des hémorroïdes internes et externes. Comment arriver à différencier les deux? Parce que vraiment, il y a une différence entre hémorroïdes internes
et externes, d'accord.
De manifestations.
D'accord. Merci Jean-Luc. Après. Merci bien. Et Omar Kigalo, docteur, est revenu, il dit, au niveau de l'ordre de médecin, est-ce qu'on peut pas prendre des mesures pour un peu régler cette affaire des tradipraticiens qui envahissent les médias et qui font croire aux gens que pour les maladies hémorroïdaires, il faut aller les voir.
Voilà, exactement. Je pense qu'au niveau de l'ordre de médecin, mais également des décideurs, il me semble qu'il y a d'ailleurs une loi qui avait été prise pour que toutes ces émissions-là, en tout cas au niveau de pays puisse être entre guillemets auditionné avant de passer à l'antenne, parce que c'est vraiment des catastrophes où les gens peuvent avec un temps d'antenne qui va vraiment à la propagande et parfois à raconter des inepties vraiment, et c'est dangereux pour la population parce qu'on véhicule là un message qui est vraiment honteux, honteux pour notre pays, parce que maintenant avec cette canal satellite, enfin satellite et tout, c'est entendu dans le monde entier. Oui. Vous imaginez l'image du Congolais quand qu'on autorise des messages comme ça à la télé. Je crois que l'ordre effectivement j'espère qu'il devrait se saisir de ce sujet. Lorsqu'en médecine on dit que vous avez des maux de tête, ça, vous avez des maux de tête, faut prendre du doliprane ou paracétamol. Il faut savoir qu'il y a eu des études qui ont été faites, qui ont vu comment quels ont été les résultats, quels sont les risques que ça génère en prenant telle dose. Entre du praticien, il y a sans doute des produits qui sont des natures, peut-être qui ont des vertus.
Des potions. Mais le dosage n'est pas très très connu.
Exactement. Et ça expose à des risques. Et je peux vous dire que j'en vois des complications. Oui, l'ordre devrait sans doute plus s'occuper de ces problèmes, faire des propositions aux décideurs, parce que ça pose vraiment un problème de au niveau de notre pays, au niveau de la prise en charge des patients. Voilà.
Et Jean-Luc dit, est-ce que le feuille de manioc peuvent provoquer une maladie hémorroïdienne?
Alors, il n'y a pas d'étude, Jean-Luc, disant que le fait de manioc directement provoque ou non une maladie hémorroïdienne. Mais, vous savez, j'ai dit tout à l'heure dans la physiologie, en physiopathologie, comment on peut irriter les hémorroïdes. C'est entre autres par la constipation. Or, le fait de manioc va plutôt faire l'inverse. Il va améliorer le bol fécal, donc il va améliorer le transit. Au contraire, il devrait protéger de la maladie hémorroïdaire parce qu'il va améliorer la constipation. Donc non, si un patient me demande, docteur, il faut que je peux continuer à manger le feuille de manioc, je lui dirai, vous pouvez continuer, c'est même, je vais l'encourager.
D'accord. Voilà. Et Jean-Luc dit, comment reconnaître une maladie hémorroïdaire interne et externe?
Voilà, c'est une excellente question. En fait, il y a deux groupes d'hémorroïdes à l'entrée de l'anus, à l'extérieur. Il y a des paquets d'hémorroïdes externes. Et ces paquets ne sont pas visibles. ils ne sont visibles que quand ils sont malades. Donc, quand on fait l'inspection de la région anale, à l'extérieur, si vous avez des petits replis, des petits surélévations de peau qu'on appelle nous des marisques, des petits bourrelets, c'est sans doute des séquelles d'hémorroïdes externes que vous avez fait les crises avant. Et les crises d'hémorroïdes externes, c'est tout simple. Docteur, j'étais assis, ou jeudi, on est en train de faire l'émission, puis brusquement, j'ai une douleur au niveau de l'anus et je ressens une boule. Eh ben, vous allez, même en disant ça au téléphone, je vais vous dire, vous faites probablement une thrombose hémorroïdaire. C'est-à-dire, à un moment, le sang qui circule se bloque. Ça fait comme un boudin. Et ce boudin va faire que ça va gonfler. C'est ce qu'on appelle thrombose hémorroïdaire. On voit les patients en urgence. Nous, on l'incise. En une minute, j'ai bien dit une minute, on met une petite anesthésie, on l'incise, on l'enlève. Et on fait en sorte que ça guérisse vite, ça soulage la douleur. Et ça va éviter qu'en cicatrisant, ça fasse un repli au niveau de l'anus qu'on appelle marisque. Ça, c'est les hémorroïdes externes. Et il y a des paquets internes qu'on appelle les hémorroïdes internes.
On peut développer les deux.
On peut développer les deux. En général, quand on va à la chronicité, les gens sont gênés régulièrement depuis longtemps. C'est souvent la maladie hémorroïdaire interne qui a commencé par avoir un peu de sang dans la nacelle. Comme ils ont pas mal, ben ils restent à la maison. Mais petit à petit, ça continue à se décoller de la paroi. Imaginez toujours ces oranges à l'intérieur qui se décollent et qui petit à petit vont sortir à l'extérieur. Oui. C'est les hémorroïdes internes qui deviennent un peu compliquées ou avancées.
Patient Paul Ngoy vous pose la question, il est à Mongafou, là, il dit, est-ce que le fait de manger la chikwang, est-ce que la chikwang peut causer une maladie hémorroïdaire?
Alors, il a quelques vertus constipantes, donc c'est par la constipation, c'est pas la chikwang elle-même qui va provoquer la maladie, mais si quelqu'un prend la chikwang et par ailleurs s'hydrate, il boit bien régulièrement, il mange des légumes, il prend des fruits pour éviter d'être constipé, la chikwang en elle-même spécifiquement ne provoquera pas la maladie hémorroïdaire.
D'accord. Emery Makuiza Ngandu est à Mbujimayi. Bonjour Emery. Désolé, il n'est plus là, il va sûrement nous rappeler. Miakaze Birisi nous a écrit, merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit sur la page Facebook d'Okapi Service. Miakaze vous pose cette question, docteur. Est-ce que l'hémorroïde est guérissable?
Ah oui, mais bien sûr. Dans 80, je voulais donner un chiffre, dans 80% des cas, je vais compléter, les hémorroïdes sont guérissables médicalement. Il n'y a même pas besoin d'être opéré.
Et il n'a pas fini sa question. Il dit, d'après certaines affirmations, la médecine moderne est incapable de guérir cette maladie, sauf la médecine traditionnelle. Vrai ou faux?
Non, mais c'est faux et c'est vrai que c'est un problème d'information. Vous savez, dans ma pratique, y compris ici, mais également en Europe, dans ma pratique quotidienne en France, la pathologie hémorroïdaire, c'est la pathologie de l'adulte jeune. Je peux vous donner un chiffre sur, alors je vais donner un chiffre rond, si on voit 1000 personnes sur une année qui sont venues vous voir en consultation pour une pathologie hémorroïdaire, vous allez en guérir 80%, donc 800 avec des simples traitements médicaux, parce que le problème c'est que les gens consultent souvent tard, ils ont été gênés depuis des années, comme ils ont pas mal, ils voient pas l'urgence de consulter. Très souvent ils viennent nous consulter parce qu'ils commencent à être gênés, il y a une grosseur qui sort régulièrement au niveau de l'anus, ça commence à suer le slip, ça commence à être gênant, ou alors ça commence à saigner plus abondamment, régulièrement, ça commence à les gêner, voire même quand les selles passent, ça frotte la paroi, c'est de là ils viennent vous voir. Mais ils viennent vous voir, il y a plusieurs stades, il y a 4 stades, ils viennent vous voir au stade 3 ou 4 où ça devient déjà plus gênant. Mais même au stade 3 ou 4, on va traiter localement avec les traitements médicaux simples, voire les traitements instrumentaux, j'espère qu'on va en parler, on va guérir 80%. Dans les 20% qui restent, il y a 10% qui vont avoir besoin de prolonger les traitements plus longs, qu'on va améliorer, et les 10% restants, on va être obligé d'opérer parce que c'était trop gênant. Oui, la médecine moderne s'occupe des hémorroïdes et depuis longtemps, sans aucun problème.
Mohamed Zola est en Mbujimayi, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Mohamed?
Oui, ma question est celle-ci.
Oui.
Alors, oui. Donc, j'ai dit...
Veuillez éteindre votre radio, vous allez suivre la partie du téléphone. Hein.
Oui, donc j'ai dit... Allô,
bonjour. Oui, on vous écoute, Mohamed.
Vous avez dit que quel est le diagnostic définitif? Tu peux nous confirmer que ça, c'est l'hémorroïde interne et externe, selon les docteurs invités.
D'accord. Docteur Antoine.
Voilà, c'est quelque chose de simple, en tout cas, quand vous venez en consultation. Déjà, les symptômes que vous allez avoir, qui sont des symptômes plutôt à l'extérieur de l'anus, qu'on va inspecter en quelques secondes, hein. On voit bien s'il y a une pathologie hémorroïdaire externe, mais c'est lui qui gêne le plus de façon prolongée. C'est souvent les hémorroïdes internes. Alors, on le fait simplement, avec un petit anuscope, un petit appareil, qui ne fait pas mal du tout, avec une petite crème. On a le toucher rectal et les yeux. Vous voyez, donc c'est même une exploration qui demande même pas un équipement compliqué. Mmh. En peu de temps, on fait le diagnostic. Voilà. Donc, les hémorroïdes internes externes, il faut s'en occuper tôt. Le problème, c'est de ne pas faire soi-même son diagnostic avant. Donc, le message que je veux surtout porter, le principe est simple. Quand on dit qu'on a des symptômes au niveau de l'anus, qu'on a moins de 35-40 ans, on va voir le médecin, il va vous soigner. Au-delà, on va dire, il faut faire attention. Parce que tout ce qu'on va prendre comme symptômes liés aux hémorroïdes peuvent être des symptômes liés à autre chose. Je rappelle que les hémorroïdes ne doivent pas faire mal, ne doivent pas continuer à démanger. Et chez quelqu'un de 40 ans en plus, doit avoir un examen. Parce que ce serait tellement dommage de laisser une maladie cancéreuse se développer dans cette zone. Alors que cette maladie cancéreuse dans cette zone-là se soigne facilement, se guérit facilement. Donc ça peut être des signes qui révèlent une autre maladie. Mmh. Il faut être précis au niveau du diagnostic. Ce que ne fait pas les tradis praticiens, j'insiste là-dessus.
Voilà, ce que ne font pas les tradis praticiens. Alors, Jimmy Moussenvou là nous a écrit depuis Bounia, il dit est-ce que le fait de consommer beaucoup du riz tous les jours peut conduire le sujet à développer une maladie hémorroïdaire?
Voilà, en fait, c'était un résumé global au niveau de l'alimentation. Il n'y a pas d'aliments qui ont été définis au niveau scientifique, littérature, que tel aliment peut provoquer la maladie hémorroïdaire. En fait, les aliments qui peuvent occasionner la constipation, c'est par le biais de la constipation, le biais du trouble de transit, qui peuvent favoriser les hémorroïdes. Donc, je n'interdis pas, moi, tel ou tel aliment à mes patients. Quand ils viennent me voir, si les hémorroïdes sont très fragilisées et avancées, je peux leur dire de réduire un peu la consommation en piment, par exemple, le temps d'améliorer leur paroi hémorroïdaire, et après de dire que d'avoir une consommation modérée. Il n'y a pas d'aliment spécifique qui va provoquer la maladie hémorroïdaire.
Bien, Blanchard Kilobi est à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Jeudi et bonjour à l'invité.
Bonjour Blanchard.
Quelle est votre question?
Oui, Jeudi, je pense bien que l'invité vient d'appuyer plus sur les aliments. C'est la question aussi que je voulais poser par rapport aux aliments. Mmh. J'ai essayé de lire dans une revue où on a parlé que les hémorroïdes ne datent pas d'aujourd'hui. Même à l'époque, avant Jésus-Christ, les hémorroïdes existaient sur certaines personnes.
Le docteur l'a
dit,
oui.
Il y a certains aliments que j'ai lus dans la revue où on a interdit. Par exemple, les aliments fabriqués en base de farine blanche. On a donné l'exemple des spaghettis, les riz blancs et d'autres produits sous forme de pâtes. Est-ce que le docteur confirme ces faits ou pas? Et la deuxième question, le fait de s'asseoir longtemps sur une chaise, vous voyez, il y a des personnes qui travaillent dans des bureaux, il y a d'autres qui sont dans les véhicules longtemps, comme moi par exemple. Je suis dans un travail où je reste longtemps, presque toute la journée, sur le siège d'un véhicule. Je suis délégué commercial d'une société de la place. Alors, le fait de s'asseoir comme ça, à des fois, je sens comme s'il y a des problèmes des hémorroïdes. Est-ce que les docteurs ne confirment pas ce fait? Voilà un peu mes deux questions.
D'accord. Docteur Antoine.
Alors, on revient forcément sur l'aspect alimentaire. Hein. Mm-hmm. En fait, je pense que la revue que vous avez vue, Blanchard, donnait probablement des conseils pour avoir un transit intestinal régulier, c'est-à-dire d'éviter d'être constipé. Lorsque quelqu'un est fréquemment constipé, on peut lui donner quelques conseils de type d'aliments à favoriser ou non. En tout cas, si vous venez à ma consultation, vous verrez que vous repartirez sans interdiction d'aliments à manger ou pas. Par contre, si vous avez tendance à être constipé, je vais vous dire quels sont les aliments à favoriser ou à privilégier. Je vous dirai qu'il faut avoir tendance à boire plusieurs fois des petites quantités dans la journée. En général, si ça ou hiver, les gens en général disent ils boivent beaucoup. Quand vous leur demandez, vous buvez comment? Ils savent pas combien. C'est 1 à 2 verres d'eau à chaque repas. Ça fait 3 fois si vous mangez 3 fois. Et au milieu de matinée, vous prenez 1 à 2 verres d'eau. Et au milieu d'après-midi, vers 16h, 1 à 2 verres d'eau. Vous voyez, 4 ou 5 fois dans la journée, 1 à 2 verres d'eau de petite quantité, mais en plusieurs fois. Mmh. Ça va aider le transit à s'améliorer. Vous mangez beaucoup de légumes, beaucoup de fibres, en fait, des fruits pour régulariser votre transit. Donc, je vous interdirai pas de prendre les pâtes ou les spaghettis. Mmh. Je vous dirai
le
riz blanc. Il n'y a aucun problème de la farine. Par contre, je vous dirai, me rajouter en plus des légumes, des choses comme ça pour améliorer votre transit. Donc, c'est plutôt des conseils diagnostics généraux. La station assise prolongée, nous en avons parlé tout à l'heure. Il est délégué médical, donc il est souvent
délégué assis, commercial.
Délégué commercial. Oui. Donc je le conseillerais de consulter au moins une fois, qu'on voit s'il y a un aspect, ce qu'on appelle nous d'anite, donc une inflammation de l'anus. Peut-être qu'on va soigner tout simplement. Et puis après, il pourra être changé régulièrement de position, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la station assise prolongée, mais également station debout prolongée, les vigiles, le soldat qui monte la garde, ils peuvent aussi perturber la circulation et donc favoriser leur pathologie hémorroïdaire.
Gaël Dixon nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Gaël.
Bonjour, Gaël.
Bonjour, Gaël, je te posais la question à notre invité par rapport à la question du jour.
Oui.
Parce que j'ai aussi ma petite soeur qui a souffert aussi de cette maladie. Il est arrivé une fois que quand on voulait faire, parce que d'habitude ici chez nous on fait toujours le lavement, on ne donne pas le médicament. Mais il est arrivé un jour qu'en faisant le lavement, il y a un organe qui est sorti, donc un intestin, un gros intestin. Je ne sais pas si c'est l'anus, je ne sais pas son nom. Il est arrivé que quand un jour on faisait le lavement, tout organe la sort de dehors. Alors, on est allé à l'hôpital pour chercher le médicament et le traitement, on n'a pas eu. Et le problème qui se passe là, c'est après quelques minutes après, on a pris seulement du savon, le mousse du savon, on a commencé à faire, à frôler l'organe, et peu à peu, l'organe commence maintenant à refuser son temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le traitement? Parce que quand j'ai essayé de vous appeler, je n'ai pas suivi l'émission en intégralité, et puis, je n'ai pas suivi le traitement. S'il y a moyen que l'invité puisse répéter, réitérer le traitement pour que l'on puisse bien savoir. Merci beaucoup.
Alors, qui faisait ces lavements avec la mousse du savon sur votre soeur?
Non, ce n'était pas le lavement. C'est après, parce qu'on prenait juste les racines des arbres pour faire le lavement. C'est en faisant le lavement, c'est après qu'on a fait le lavement, c'est-à-dire que l'organe, le gros intestin qui est sorti du dehors. Et maintenant, pour le faire retrouver, pour le faire entrer du ventre, c'est alors qu'on a pris le mousse, qu'on a fait à prôner le...
D'accord, on a compris. Docteur Antoine.
Oui, Gaël, bonjour. Je vous rassure tout de suite. En fait, on n'a pas eu le temps de parler des quatre stades des hémorroïdes, mais je rappelle, peut-être que vous n'avez pas suivi l'image d'orange, les oranges qui sont à l'intérieur de la paroi, et petit à petit, lorsqu'on les fragilise, quand les matières passent, ça pousse sur ces oranges, ça peut rester à l'intérieur, mais à un moment, si ça, on n'a pas soigné les hémorroïdes, ces boules peuvent s'extérioriser. En fait, on a quatre stades. Le stade 1, c'est simplement une inflammation des hémorroïdes. Le stade 2, une inflammation, mais quand on pousse, on demande à la personne de pousser, on voit à l'intérieur, ça descend un peu, mais sans s'extérioriser. Le stade 3, lorsqu'on lui demande de pousser, ça vient vraiment à l'extérieur. Et quand il arrête de pousser, ça rentre tout seul à l'intérieur. Et le stade 4, c'est très probablement ce que Gaël a vu chez sa sœur, c'est quand ça sort à l'extérieur, ça rentre pas tout seul, il faut le remettre au doigt ou avec un peu de crème poussait simplement.
C'est quoi? C'est le rectum?
En fait, c'est le haut du canal de l'anus, c'est le bas du rectum qui ressort, c'est pas le côlon. Oui. Voilà, qui va ressortir dehors. Et c'est vrai que parfois ça peut être impressionnant, voir la boule comme on n'a pas l'habitude, c'est pas quelque chose de grave. Mais certaines personnes peuvent, en plus de ces boules, l'hémorroïde, faire ressortir la paroi du rectum. C'est ce qu'on appelle une rectocèle. Imaginez toujours une orange, compte qui est dans une branche, et si l'orange est trop lourde, il va tirer sur la branche, vous voyez, il va tirer sa paroi, donc il va tirer la paroi du rectum qui va sortir avec elle à l'extérieur. C'est le rectocèle.
Mais là, c'est douloureux, j'imagine.
Non, ça doit pas être douloureux, sauf si on a irrité la paroi du rectum. Là, ça va être gênant, ça peut être douloureux. Une fois on le remet en place, ça soulage quasi immédiatement. Donc il n'y a pas à faire des lavements, c'est pas le traitement, c'est une pommade simple, et puis on remet ça tranquillement. Et par contre, il faudra le soigner pour que ça reprenne bien sa place contre la paroi.
Alors, utiliser une mousse des savons pour... je sais pas, est-ce que c'est une pratique recommandable ou pas, docteur?
Non, alors je pense que ce qui est probable, mais j'ai pas vu le patient, il est possible que la sœur de Gaël avait en fait ce qu'on appelle un fécalome, c'est-à-dire des matières dures qui ont été coincées dans l'anus. Quand vous avez des matières dures coincées dans l'anus, c'est très inconfortable, ça fait très mal. Et quand on va essayer de le faire sortir, ben ça va sortir avec la paroi. Donc ça sort avec le bout de l'anus. Donc on va faire un lavement, non pas pour remettre les hémorroïdes, mais le lavement évacuateur au savon, hein, ça se fait. C'est juste pour sortir le bloc de matière, vous voyez. Et une fois que les matières, le caca est sorti, ben la paroi va rentrer à sa place. Mais il vaut mieux
certains
ça.
Font la purge, hein.
Ils font la purge, c'est
on
ça.
On va purger.
C'est ça la purge, en fait. Certains font la purge avec de l'eau tiède, d'autres mettent un peu de savon. Je pense que j'ai des conseils quand même, tant qu'un médecin n'a pas vu ça. Mais parfois, on peut utiliser simplement la pommade. Moi, je le fais au doigt, tout simplement, on le remet. Et c'est totalement indolore, c'est quelque chose de spontané.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir ça, cette maladie, pour terminer, docteur?
Alors, je pense que quand vous avez des symptômes au niveau de l'anus, sachez premièrement que ce n'est pas toujours que des hémorroïdes. En général, les hémorroïdes, on peut avoir un peu de sang en allant à la selle que en allant à la selle, du sang rouge. Du moment où la coloration change et vous avez du sang en dehors des selles, vous devez consulter. Jusqu'à preuve du contraire, ne faites pas votre diagnostic. Montrez-le au moins une fois à un médecin qui vous confirme qu'il n'y a pas autre chose que les hémorroïdes. Quand vous avez des douleurs à ces niveaux-là, c'est pas les hémorroïdes, ou alors il y a une complication d'hémorroïdes, c'est pas les hémorroïdes simples. Quand ça démange, quand ça saigne, quand il y a une boule, quand vous avez la fièvre, c'est autre chose que les hémorroïdes. Ne passez pas à côté d'une maladie grave. Le conseil simple, c'est d'essayer d'avoir un transit, d'aller régulièrement à la selle, des selles pas dures, de ne pas pousser trop fort et trop longtemps quand vous êtes aux toilettes, parce que plus vous poussez sur la paroi des hémorroïdes, vous risquez de fragiliser la maladie. Des mesures
simples. Et ne faites pas confiance aux tradis praticiens.
Ah ben, j'ai pas assez sur ma part ce que je vais recommander. Il faut faire un diagnostic de médecine moderne.
Médecine moderne. Voilà, médecine. Le sport, est-ce que ça
aide? Ah ben, le sport, c'est une très bonne chose parce que ça fortifie la musculature au niveau du petit bassin. C'est bénéfique pour favoriser la circulation au niveau du petit bassin. Il est sans doute plus efficace pour améliorer, y compris au niveau de la sexualité.
Docteur Antoine Chimpi, spécialiste des maladies de l'appareil digestif. Merci et bonne journée.
Merci, Johnny. Bien, bonne journée à vous.